un tout petit texte que je vous invite à entendre aujourd'hui, un tout petit texte du livre de la Genèse dans l'histoire d'Abraham, quand il s'appelait encore Abraham et pas Abraham. Trois petits versets dont je dirai tout à l'heure dans quel contexte ils se situent. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek, roi de Salem. Il surgit comme ça, d'un coup, dans le texte de la Genèse, et il disparaît tout aussi soudainement. À peine trois petits versets. Très brefs, très fulgurants. Mais les traditions juives et chrétiennes ont beaucoup ajouté à ces trois petits versets. Beaucoup d'interprétations, beaucoup de précisions. Pourtant, dans la Bible, Melchisédek n'est cité que deux fois, en plus de ce passage de la Genèse. Il est cité dans le psaume 110, dans les Écritures hébraïques. Il est dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Dans ce psaume 110, c'est l'Éternel qui s'adresse au roi. On considère ce psaume comme un psaume royal, pour le sacre d'un roi. Mais il est chanté à Jérusalem au moment de la fête des tentes pour rappeler les promesses messianiques, pour parler du Messie attendu. Alors, tu es prêtre à la manière de Melchisédek ? Eh bien, c'est une manière d'ancrer cette prêtrise du roi attendu. C'est une manière d'ancrer cette prêtrise dans une précédence par rapport aux prêtres d'Israël, ceux dont il est question dans l'Ancien Testament, qui sont tous issus de la tribu de Lévi. C'est la loi. La tribu de Lévi, des 12 tribus d'Israël, c'est d'elle que sont issus tous les prêtres. D'ailleurs, cette tribu n'a pas de territoire. Son territoire, c'est le service de l'Éternel. Or, le Messie attendu devait être de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Mais pour qu'il soit prêtre, il est ainsi rattaché à la prêtrise de Melchisédek qui surgit et qui vient dans le livre de la Genèse bien avant les 12 tribus que l'on connaît. Le psaume 110 a lui été interprété puisqu'il parlait du Messie de manière très christologique dans le Nouveau Testament. Jésus est le Messie, le Christ annoncé à la fois roi et prêtre, et pour toujours. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on trouve d'autres mentions de Melchisédek, l'Épître aux Hébreux qui cite le psaume 110, donc vous voyez, on se situe dans une continuité. L'Épître aux Hébreux cite le psaume 110, mais l'amplifie en revenant longuement sur cette prêtrise de Melchisédek, instituée par Dieu lui-même et qui n'est pas raccordée à la loi. Prêtre pour toujours, et même, dit l'Épître aux Hébreux, sans commencement non plus, donc depuis toujours, parce que aucune généalogie du roi de Salem n'est mentionnée dans la Genèse. Il vient comme cela. Alors après, le Nouveau Testament, pour nombre de pères de l'Église, et pour nombre de théologiens, et par exemple Jean Calvin, qui a écrit tout un commentaire de l'Épître aux Hébreux, Melchisédek et la préfiguration du Christ. Mais il me semble que ces trois petits versets de la Genèse disent cependant en eux-mêmes beaucoup de choses, et que cette rencontre inopinée entre Abraham et Melchisédek nous donne beaucoup de raisons d'espérer et nous donne beaucoup de ressources pour nos propres rencontres humaines. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'Abraham et Melchisédek auraient pu ne pas s'entendre du tout. Il faut que je vous explique le contexte de cette rencontre que nous avons lue. Vous savez, Abraham est un nomade. Il va d'étape en étape, il n'est jamais chez lui. Il ne s'installe nulle part, il ne s'inscrit pas dans aucune histoire d'un des clans ou d'un des peuples qu'il en vient à rencontrer au cours de ses déplacements. En plus, Abraham est riche et puissant. Il possède beaucoup de troupeaux, beaucoup de serviteurs. D'ailleurs, Abraham, le nom lui-même, c'est un nom prestigieux. Abraham signifie « Père très haut ». C'est un nom pour dominer. Alors, nomade, riche, avec un tel nom, et il y aurait là bien des raisons de se méfier d'Abraham ou de quelqu'un qui lui serait semblable ou aurait au moins une de ces trois caractéristiques. Mais qui plus est, Abraham, en cette occasion, est en plus un chef de guerre victorieux. Abraham s'étant trouvé entraîné dans un conflit entre plusieurs rois aux alentours, 9 rois. Lui n'a déclaré la guerre à personne. Mais son neveu Lot, qui s'était séparé d'Abraham quelque temps auparavant, Lot était allé s'installer, il l'avait choisi, il était allé s'installer sur le territoire du roi de Sodome. Et ce roi-là, le roi de Sodome, a été entraîné dans le conflit des 9 rois et il a été battu. Donc ceux qui l'avaient vaincu, eh bien, ont emmené en captif tous ses biens et nombre de personnes vivant chez lui, dont Lot. Abraham avertit, a armé ses serviteurs les plus forts, les plus vaillants, et il est allé mener campagne contre les rois qui avaient vaincu le roi de Sodome. Vous suivez, enfin, sinon vous irez le lire. Hein. Et il a remporté la victoire. Il a donc libéré son neveu Lot et s'est emparé d'un très important butin. Non seulement tout ce qui appartenait au roi de Sodome et qui avait été emporté par les vainqueurs du roi de Sodome, mais il a aussi emporté tout ce qui appartenait aux vainqueurs du roi de Sodome. Vous suivez toujours. Et c'est à ce moment-là que surgit Melchisédek, qui lui n'avait pas pris part à la guerre. Le roi de Salem aurait bien eu des raisons de se méfier d'Abraham. Il aurait eu des raisons de gouverneur, de roi, de rentrer en guerre contre lui, suivant l'adage bien connu que la meilleure défense, c'est l'attaque, quand on voit arriver quelqu'un de riche, de puissant, de nomade, de bien armé, etc. Ou le roi de Salem aurait pu se dire « négocions, passons un traité pour éviter les ennuis ». Eh bien, pas du tout. Melchisédek, dont le nom signifie « roi de justice », est roi de Salem, peut-être Jérusalem, peut-être un territoire autour de Jérusalem. Mais surtout, le roi de Salem est roi de paix. Salem, la paix. Il est aussi prêtre du Dieu très haut, un Dieu dont on nous dit qu'il est créateur, qu'il a fait le ciel et la terre. Et nous pouvons alors penser que pour ce Dieu très haut, parce que ce Dieu très haut tient justice et paix comme fondement du monde qu'il crée. Dieu très haut, ce n'est pas avec ce titre qu'Abraham invoque le Dieu qu'il a appelé quand il était dans la maison de son père et qu'il a mis en route. Le Dieu qu'il a appelé, c'est celui dont le nom est imprononçable, celui nom qui s'écrit avec 4 lettres, le tétragramme, que les versions secondes, les versions protestantes des traductions de la Bible rendent en écrivant « Seigneur » en petites majuscules dans le texte. Ce nom imprononçable est remplacé à la lecture dans la piété juive et la piété des Hébreux par le mot « Adonai » qui signifie « maître ». Et dans le livre de la Genèse, Dieu est aussi appelé « Elohim » qui est à strictement parler une forme plurielle, les dieux. Il est encore d'autres noms pour parler de Dieu dans le Premier Testament. Et je vous rappelle que Dieu n'est pas un nom, c'est un mot. Par exemple, Tsebaoth, Dieu des armées. Celui-là a eu beaucoup de succès. Quand on oublie que les armées dont il est question sont les armées célestes et pas les armées humaines, malgré la propension des croyants à enrôler Dieu sous leur bannière respective. Dieu appelle aussi El Shaddai, Dieu puissant, Dieu des montagnes, El Roy, Dieu qui voit, et beaucoup d'autres combinaisons du mot El qui signifie Dieu, avec un qualificatif de lieu, d'un attribut de pouvoir, de puissance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham à vivre de confiance et d'espérance, Abraham le connaît, lui, comme Dieu de la vie. Dieu pour une vie de confiance, même dans les épreuves. Dieu pour l'avenir de la vie, avec la promesse qui lui a été faite d'une descendance. Mais quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit bien à quel point il est lui-même un homme juste. Avec son neveu Lot, qu'il a laissé choisir le territoire où il voulait s'installer, quand il a fallu se séparer. Avec le roi de Sodome, celui-là qui a été vaincu, Abraham rendra tous ses biens au roi de Sodome, il ne gardera rien, alors qu'il en avait le droit. Abraham sera juste aussi avec les Hittites, quand il voudra leur acheter un champ pour ensevelir le corps de sa femme. Abraham n'humilie personne. Il est aussi un homme de paix, qui évite les conflits et les destructions autant qu'il le peut. L'homme qui prie afin que Sodome et Gomorre ne soient pas détruites au cas où il y aurait quelques hommes justes y résidant. Et nous lisons dans bien d'autres écrits de la Bible que des prophètes parlent du Dieu d'Abraham comme insistant sur la nécessité de la justice dans les relations humaines. Insistant sur la paix comme plénitude et harmonie profonde, au-delà de ce que les humains peuvent voir dans la nature, au-delà même de ce que les humains peuvent mettre en œuvre de non-violence dans leurs interactions. Le Dieu de Melchisédek, Dieu très haut et créateur, Dieu universel, Dieu de justice et de paix, ressemble beaucoup au Dieu d'Abraham. Le Dieu qui appelle à la vie, pour la vie, celui qui survient quand on pense que la vie n'est plus possible, un Dieu d'espérance et d'avenir. Oui, le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu très haut de Melchisédek. Mais c'est toute une affaire qui prend souvent plus que le temps de lire 3 versets, de reconnaître la manière dont les autres nomment leur Dieu, et de pouvoir reconnaître que ce Dieu peut être aussi le nôtre. Donc Melchisédek, au nom du Dieu très haut, vient vers Abraham, lui offre pain et vin en partage, et le bénit. Il vient vers lui, il s'approche. Cela n'a l'air de rien parce que ces verbes sont si communs, si courants, si ordinaires. Mais venir vers quelqu'un, s'approcher de lui, cela indique que sont écartés les peurs et les préjugés, les intérêts particuliers et les calculs. Cette venue, cette advenue de Melchisédek parle aussi du Dieu très haut, très haut. N'est pas très loin. Le Dieu très haut n'est ni absent ni indifférent. Et nous pouvons penser aussi au Dieu de Jésus-Christ, se liant à l'humanité de la crèche à la croix pour la résurrection de tous. Melchisédek offre du pain et du vin. Nous ne savons pas ce que ce geste signifie exactement pour lui. Pain et vin, peut-être comme signe, comme offrande de justice, de paix. Pain et vin partagé, nous pensons tout de suite à la scène. à l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, une alliance toujours nouvelle, toujours vivifiée pour la vie des humains. Nous pouvons lire dans l'offrande de pain et de vin de Melchisédek une offre de convivialité et d'hospitalité. Et cela n'est pas juste une politesse. Cela veut dire, nous habitons la même terre. Nous habitons le même monde. Et ce monde tient comme un monde habitable seulement si le monde commun est partagé. Seulement si le monde où chacun reconnaît et acquiesce à la présence de l'autre tel qu'il est. Seulement si ce monde est bâti sur la justice et sur la paix. Enfin, Melchisédek bénit Abraham. Il le bénit, il ne le regarde pas comme un inférieur, il ne le regarde pas comme un adversaire. Il le regarde avec un élan de confiance, dans un monde de paix. Melchisédek bénit celui en qui tous les clans, familles, nations de la terre seront bénis par Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu très haut. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. La bénédiction, c'est le commencement d'une dynamique, d'une circulation. Elle oriente la personne bénie vers les autres jusqu'en haut, jusqu'à l'universalité. L'universalité qui est la dimension de la promesse faite à Abraham. Bénir, dire à quelqu'un qu'il est bon qu'il soit là, engage celui qui le bénit à se comporter en conséquence, en proche, en ami. Jésus-Christ n'a eu de cesse de faire passer la bénédiction de Dieu aux uns et aux autres sans souci d'aucune frontière que ce soit. Alors Abraham verse la dîme de son butin à Melchisédek. Non comme une soumission, parce qu'Abraham écoute seulement Dieu. Mais c'est plutôt comme une réponse, un engagement dans la communion, dans l'alliance faite par Melchisédek. Une réponse de gratitude à la bénédiction reçue. Et voilà pourquoi, chers amis, il y a dans ce récit beaucoup d'espérance pour les croyants. Celle d'aller à la rencontre de l'autre, comme celle de se laisser approcher par l'autre. Celle de donner à l'autre, pain et vin ou autre chose, et celle de recevoir de l'autre. Celle d'être béni par l'autre, et celle de le bénir. Et que justice et paix soient la part de tous dans un monde d'hospitalité et de convivialité où les uns et les autres vivent ensemble. Il arrive bien quand même que dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos existences passe une soif de paix, une faim de justice, la joie d'être vivant avec d'autres, même différents. Une certaine idée du monde comme monde commun où vivre ensemble. Puissions-nous accueillir ces moments de grâce afin qu'ils ne disparaissent pas trop vite, pas du tout, dans les tumultes du monde, afin qu'ils nous permettent d'ajuster nos rencontres, nos dialogues, dans l'esprit de la rencontre de Melchisédek et d'Abraham, afin que ces moments de grâce raffermissent la confiance en ce Dieu qui ne se laisse enfermer dans aucun nom et qui nous appelle à devenir des hommes et des femmes de bénédiction. Amen.